Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Campus Grenoble, 90.8. Corentin Bémol.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez le bienvenu, amis auditeurs, dans cette 12e édition de Microcité, votre rendez-vous d'actualité hebdomadaire. Toute l'équipe de l'émission est sur le qui-vive et en direct avec vous jusqu'à 17h. Au sommaire de cette édition, 3 ans après Balance ton port, le mouvement Science Port s'est imposé cette semaine sur les réseaux sociaux. Une enquête préliminaire a été ouverte pour viol à Toulouse et 2 pour agression sexuelle à Grenoble. Mais que se passe-t-il dans les IEP? On voit ça dans le dossier de la semaine. Et puis en fin d'émission, Lou Momège va nous régaler. Elle est allée chez Marius, un restaurant grenoblois qui propose des petits plats mijotés à 1 euro pour les étudiants qui souffrent de la crise du Covid. Voilà pour le programme. Installez-vous confortablement. Vous êtes sur Campus Grenoble. On est ensemble jusqu'à 17h. Microcité, c'est parti. 16h31, c'est l'heure du journal avec Colline Mollard. Bonjour Colline.
Bonjour Corentin, bonjour à tous.
À la une de l'actualité, Sciences Po secouée par les affaires de viol et d'agressions sexuelles.
Une vague de témoignages afflue sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. À Grenoble, un rassemblement a lieu en ce moment pour soutenir les victimes. On entendra le témoignage de 2 d'entre elles. Dans ce journal également, les musées n'attendent que ça, rouvrir leurs portes. Ils se disent prêts à accueillir du public dès maintenant. La Saint-Valentin, c'est ce week-end, mais que faire quand tout est fermé à cause de la crise sanitaire? On en parle dans quelques minutes. Sciences Po dans la tourmente, les témoignages de viols et d'agressions sexuelles continuent de provoquer des remous partout en France, y compris à Grenoble où un rassemblement a lieu cet après-midi. Nous en reparlerons dans le dossier. Mais d'abord avec vous, Lucille Besse, retour sur ce hashtag Sciences Po qui bouscule l'institution. Plus d'une centaine d'étudiantes se sont déjà manifestées sur les réseaux sociaux.
Les témoignages se ressemblent et ils ont souvent pour décor les week-ends d'intégration. Inès est une ancienne étudiante de Sciences Po.
Des mecs qui allaient coucher avec des filles dans des tentes alors que les filles, elles avaient vomi genre un quart d'heure avant et... Enfin, tu vois clairement que la fille, elle était déglinguée, elle était pas debout.
Des faits souvent commis par les deuxièmes années sur des jeunes femmes qui commencent à peine leurs études.
Il y a un mec, il a ramené sa filleule chez elle alors qu'elle était ultra bourrée. Il l'a violée, elle lui a dit non. Et le mec, il regrettait rien, quoi. Mais c'est déjà arrivé qu'il y ait eu des affaires qui soient remontées et l'administration ne traîne aucune sanction, en fait. Parce que ça se passe pas à Sciences Po, ça se passe dans les soirées.
Depuis 2015, les IEP se sont dotées de cellules d'écoute, mais elles traitent aussi d'autres sujets comme les discriminations. Marie est une ancienne étudiante de Sciences Po Grenoble.
C'est pas assez spécialisé sur ce thème-là, mais c'est pas forcément tous les leviers juridiques. Les agressions sexuelles, faut les nommer. Moi, j'en ai une. Voilà, c'est un garçon qui m'a embrassée sans me demander mon avis, qui a mis ensuite les mains sur ses fesses. S'il y avait plus de communication là-dessus, on aurait plus sur le fait de se dire « Ah, ce comportement-là est problématique, je vais en parler à l'établissement ».
En réponse à ces témoignages, les directeurs d'IEP affirment saisir le procureur dès qu'ils ont connaissance d'une affaire. À Grenoble, un poste va être créé pour améliorer la lutte contre ces violences.
Et à Grenoble, des représentants étudiants ont rencontré l'administration de Sciences Po cet après-midi.
Et nous recevrons dans une dizaine de minutes Thomas Mandrou, président de l'Union syndicale de Sciences Po Grenoble, qui a participé à cette réunion.
La vague de froid s'intensifie, des centaines de poids lourds sont bloqués en ce moment en Bretagne à cause du verglas. 30 départements sont en vigilance orange ou rouge pour neige et verglas. Faut-il fermer les écoles en Moselle? Plus de 300 cas de variants au Covid ont été détectés en 4 jours. Les élus du département réclament un confinement local. En France, le variant britannique représente un quart des contaminations. Des variants qui se propagent vite, notamment dans les écoles. Presque 1600 classes et une centaine d'établissements scolaires sont actuellement fermés en France. Des chiffres en nette hausse selon le ministère de l'Éducation nationale ce matin. Les musées, eux, pourraient rouvrir bientôt. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, annonçait en début de semaine une réouverture possible prochainement, mais sans donner de date. Au musée dauphinois de Grenoble, on prend son mal en patience, mais pas le temps de s'ennuyer, selon Agnès Martin, directrice adjointe du musée.
Là, c'est ce qui nous rend le plus triste de ne pas avoir de public, parce que je vous dis, c'est l'ADN de notre raison d'être. Montrer nos collections, faire venir les gens, le contact direct avec l'œuvre, c'est irremplaçable. Après, on a continué à monter nos expositions en fonction de la programmation qui était initialement prévue. Il y a des conférences en ligne qui ont été mises en place. Il n'y a aucun chômage dans les musées quand ils sont fermés. On attend le public. Il n'y a pas de souci. Ça peut arriver du jour au lendemain, on sera prêt.
Agnès Martin, directrice adjointe du musée dauphinois de Grenoble.
Microcité, il est 16h35 et on en vient, Colline, au transport de l'agglomération grenobloise. Il n'y en a tout simplement plus le soir.
Et oui, après 20h30, plus de tram ni de bus depuis lundi. Une situation compliquée pour Sarah. À côté de ses études, elle travaille dans un restaurant à Échirolles jusqu'à 22h, mais habite sur le campus à Saint-Martin-d'Hères.
C'est vraiment la galère. Déjà, travailler, c'est compliqué, mais si en plus on n'a pas les moyens pour pouvoir aller travailler, alors c'est vraiment nous mettre en difficulté. Je vais essayer de m'organiser avec les personnes de mon boulot, s'ils peuvent me ramener, ou voir pour mes horaires. Mais bon, je suis pas sûre que on va me donner les horaires que je veux. Sinon, j'aurais pas le choix que de venir en trottinette ou en vélo ou un truc comme ça. Voilà. Clairement, c'est pas du tout pratique.
Le réseau de transport TAG justifie cette décision par la baisse de fréquentation avec des transports presque vides le soir. En revanche, pour les soignants, 3 lignes de navettes viennent d'être mises en place au départ du CHU. L'ONU réclame des sanctions contre les responsables du putsch militaire en Birmanie. L'Organisation des Nations Unies s'est exprimée tout à l'heure lors d'une session extraordinaire. La population birmane continue de se mobiliser contre le coup d'État du 1er février dernier.
Et puis Colline, dimanche, c'est la Saint-Valentin, une Saint-Valentin assez inédite, il faut le dire.
Impossible de partager un dîner aux chandelles dans votre restaurant préféré, pas de spectacle ni de cinéma, mais à Lisée Cheboub, certains couples ont trouvé l'astuce pour passer un moment privilégié au spa.
Le hammam aux lumières, massage relaxant aux chandelles et le cocktail des amoureux.
Katia Paré, propriétaire d'un spa grenoblois, elle accueille ses clients au milieu de ballons en forme de cœur.
On est complet pour samedi, on est complet pour dimanche, puisque là nous ouvrons le dimanche, exceptionnellement pour la Saint-Valentin. C'est des moments où ils se retrouvent tous les deux, au niveau du hammam, au niveau du bain, en cabine. Ils sont vraiment tous les deux, ils partagent un moment unique.
Encore faut-il savoir que certains spas sont ouverts. Avec les consignes sanitaires en place, Laura n'a même pas pensé à se renseigner. Elle aurait pourtant bien aimé profiter d'un tel moment avec son copain.
On avait déjà fait ça une fois et c'était vraiment une très bonne idée. On aurait bien aimé le refaire cette année, ça c'est sûr. On ne pensait pas que c'était possible. Après, je suppose que si c'est ouvert, les règles sanitaires doivent être appliquées, donc ça aurait été une bonne idée.
Forcément, le côté sanitaire interroge. À l'heure où les piscines et salles de sport sont fermées, Katia Parra, qui travaille depuis une dizaine d'années dans son établissement, assure qu'il n'y a pas de souci à se faire.
Tout est privatisé chez nous. Quand vous allez dans le hammam est fermé. Dès que le client sort, il est désinfecté. Pareil pour les bains. On n'a pas de jacuzzi, on a des bains hydromassants. Donc ça veut dire que l'eau est vidée à chaque client. On fait vraiment attention aux normes d'hygiène.
Un décret a été publié mardi pour confirmer l'autorisation de ce type de spa individuel.
Un reportage signé Alizée Cheboub. En tennis, l'Open d'Australie se poursuit mais à huis clos. Ce matin, un confinement à Melbourne a été déclaré pour 5 jours après l'apparition du variant anglais dans la ville. Kristina Mladenovic, seule française encore en lice, affrontera donc cette nuit sans public l'américaine Jessica Pegula. Enfin, on l'a appris hier, la mort de la légende américaine du jazz Chick Corea. Il est décédé d'une forme rare de cancer mardi à l'âge de 79 ans.
Merci Colline pour ce journal. On vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres. Il est 16h38.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Un instant, le dossier de la semaine consacré au mouvement Science Sport. L'affaire Duhamel a lancé une vague de témoignages sur les réseaux sociaux. Ce sera dans quelques instants, mais avant ça, vous en parliez à l'instant, Colline. Petit hommage à Chick Corea. Il a été une figure du jazz, créateur avec Miles Davis du jazz fusion, mélangeant des styles variés, rock, funk, rhythm and blues. Vous connaissez peut-être certaines de ses musiques sans le savoir. Ce genre de musique où on se dit « Ah, mais ça me dit quelque chose ». Tout de suite, Armando Rumba. Thank you. C'était Armando Zrumba de Chick Corea. Tout de suite, le dossier.
Le dossier de la semaine.
Sciences Po dans la tourmente. Depuis une semaine, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. Étudiantes et ex-étudiantes racontent les viols et agressions sexuelles subies. L'omerta des directions est aussi pointée du doigt. Christelle Delfos, aucun IEP n'est épargné.
Non, et ça se passe aussi à Grenoble cet après-midi. Une cinquantaine d'étudiants ont été réunis devant l'établissement. Ils le sont toujours d'ailleurs sous la neige. Thomas Mandrou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Union syndicale de Sciences Po Grenoble et vous êtes à l'initiative de ce rassemblement. Vous avez aussi rencontré la direction de l'école en début d'après-midi. On va y revenir. Mais avant ça, je voudrais qu'on écoute Clémentine, qui est membre de l'association En tout genre, l'association féministe de Sciences Po Grenoble.
On veut attirer le regard aussi sur le fait que ce n'est pas que les étudiants. On parle de viol au sein de l'IEP, on parle aussi de viol de professeurs sur des élèves. On parle de choses comme ça. Nous, on a des témoignages qui nous relatent des faits de professeurs qui agressent des élèves. Et c'est hyper important de se rendre compte que la culture du viol, c'est pas que entre élèves. C'est au sein de l'IEP, avec tous les acteurs des IEP. Vraiment.
Vous partagez cet avis ? La culture du viol à Sciences Po, ça existe ?
Oui, ça existe et c'est même beaucoup plus important que ce qu'on pense et ce qu'on aimerait en tout cas. Et je plus sois ce que vient de dire Clémentine, qui est que effectivement il y a aussi le problème des professeurs et de personnes, on va dire, adultes avec une certaine emprise sur des étudiants et étudiantes, qui lui est très peu mis à la lumière depuis des années. En fait, c'est surtout sur ça qu'il y a un gros problème de la part de la direction, oui.
Ça fait longtemps que vous avez connaissance de ces faits ?
En tout cas, au syndicat et en tout genre, ça fait, depuis qu'on existe, qu'on sait qu'il y a ces faits. On travaille sur ces sujets depuis des années. On a déjà eu des victoires, entre guillemets, sur certaines choses qui sont aujourd'hui pointées du doigt comme insuffisantes, et elles le sont. Mais en fait, nous, on a conscience du fait qu'il y a énormément d'agressions sexuelles et de viols. Et quand on voit que les directions, en tout cas à Sciences Po Grenoble, quand on voit que la direction dit qu'elle tombe des nues, enfin, c'est pas possible. En fait, nous, on leur en parle depuis des années. Donc, au mieux, c'est une incompréhension. Au pire, c'est un mensonge, quoi.
Alors justement, vous avez rencontré la direction cet après-midi. Qu'est-ce qui est ressorti de cet échange ?
Rien. En tout cas, beaucoup de paroles et pas mal de blabla surtout. Des sourires de la part de la direction pour nous dire qu'on nous écoute, mais en fait, on est écouté mais pas entendu. En fait, c'est très compliqué d'obtenir des engagements de la part de la direction. On n'en a eu aucun, à part de faire des groupes de travail. On ne sait pas ce que ça va donner. Nous, on le vit d'une manière très pessimiste, un peu comme si ça va surtout servir à attendre que l'affaire retombe et ensuite ne plus rien faire. C'est une technique qui a déjà été utilisée par la direction sur d'autres sujets, donc on se doute que c'est un peu pour ça. Et aussi, un des moyens des groupes de travaux, c'est de dire on vous a consulté, on vous a pris en compte, vous voyez, mais en fait, derrière, il n'y a rien qui se passe, quoi. Donc c'est assez pessimiste comme sortie de réunion, quoi.
La direction de l'école de Sciences Po Grenoble s'était exprimée en début de semaine dans un communiqué. Elle dit que depuis 2012, un certain nombre d'actions sont mises en place. Donc elle parle par exemple d'une semaine de sensibilisation annuelle sur la lutte contre les discriminations et un relais solidarité, écoute, accompagnement, entre autres. Ça ne suffit pas.
Ce sont des choses qu'on a obtenues et qu'on est assez content de les avoir obtenues, mais effectivement, c'est pas suffisant et surtout... C'est assez hypocrite de la part de la direction de dire que ça vient d'elle. Déjà, c'était un travail qui a été fait avec l'ancienne direction. La nouvelle direction n'a absolument rien fait là-dedans, à part nous mettre des bâtons dans les roues. La semaine de l'égalité, c'est quelque chose qui est fait en grande partie par les étudiants et étudiantes, notamment en tout genre, pour mieux vous en parler. Il y a eu des gros problèmes cette année, notamment d'islamophobie, et la direction les a cachés sous le tapis. Donc j'ai un peu du mal avec le fait qu'elles se vantent d'avoir fait ça. Bon, on a obtenu normalement qu'il y ait une formation en début d'année, en première année, dès le début, sur explicitement les violences sexistes et sexuelles. Mais encore une fois, ce n'est pas un engagement formel de la part de la direction. Donc on verra si c'est fait et comment c'est fait.
Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que ça change ?
Alors déjà, il y a le côté formation, il y a le côté accompagnement, où on pense que, en fait, un des problèmes, là, c'est que la direction, quand elle sait quelque chose, elle est obligée d'en informer le procureur. Il y a des personnes qui n'ont pas, il y a des victimes qui n'ont pas envie d'aller devant le procureur ou que ça soit su par la justice. Donc déjà, il faut aussi que l'accompagnement puisse se faire de manière indirecte par quelqu'un de neutre qui puisse dire, bah voilà, cette personne, elle a subi ça. Enfin, justement, plutôt qu'elle n'a pas subi ça, mais qu'elle a subi quelque chose et qu'elle a besoin d'être mise à l'écart de telle personne et que justement, ça puisse se faire sans qu'il y ait un signalement au procureur. Et donc, pour ça, il faut une personne tierce qui ne soit pas obligée légalement d'aller devant le procureur. Même si, en fait, dans les faits, avant, il y avait, je ne vais pas les dénoncer parce que c'est illégal, mais il y avait des personnes qui s'en chargeaient et qui n'allaient pas devant le procureur parce que ce n'était pas le souhait de la victime. Et maintenant, on les oblige à le faire parce que la direction est dans un côté très légaliste, ce qui est un problème aussi. Et la troisième chose, et qui est demandée et qu'on aimerait être entendu là-dessus, pardon, c'est le côté sanction. En fait, aujourd'hui, il n'y a aucune sanction qui est prise face aux agresseurs. On va accompagner les victimes, faire de la prévention, mais dès qu'il se passe quelque chose, c'est plus leur problème apparemment. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Et du coup, on demande à ce qu'il y ait des conseils de discipline automatiques dès qu'il y a une personne qui est accusée de ça.
L'école, elle aurait le pouvoir de faire ça, d'imposer des sanctions sur ce genre de plainte ?
Oui, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est qu'en fait, on a une charte contre les discriminations et l'égalité. On a demandé à ce qu'elle soit... En fait, on pensait que c'était déjà dedans, mais ça ne l'était pas apparemment d'après la direction, qu'il y a les violences sexuelles qui rentrent à l'intérieur de cela. Après, il y a une déléguée à l'égalité qui enquête sur cela, et ensuite, elle fait des recommandations. On a demandé à ce que ces recommandations elles puissent être plus éthiques que juridiques, et qu'ensuite, ça puisse passer en conseil de discipline. En fait, vu qu'il y a une charte, premièrement, ça fait partie du règlement, donc il y a non-respect du règlement. Donc la personne peut être sanctionnée pour ça. Ça veut pas forcément dire qu'elle est reconnue... par l'IEP comme coupable de viol, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Notamment parce qu'en fait, on peut aussi défendre, ce qui est assez hypocrite, mais ça peut nous servir, la réputation de l'établissement depuis un an. C'est un motif de punition depuis un an dans les conseils de discipline. Donc une personne accusée de viol, elle nuit à la réputation de l'établissement, surtout si l'établissement ne fait rien. Donc on pourrait totalement prendre des sanctions, oui.
Et vous, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que vous faites peut-être pour tenter de changer les choses si la justice ne fait rien ?
Nous, c'est compliqué. Tout ce qu'on peut faire, c'est accompagner. On accompagne des étudiants et étudiantes, surtout des étudiantes, dans ces démarches devant la direction. Ça m'est déjà arrivé. On essaye de rendre nos associations, moi, mon syndicat, le plus safe possible, en excluant les personnes qui ne le sont pas. Et on milite en tout cas pour plus de formation. On fait de la formation, en tout cas, pas forcément moi personnellement, mais par exemple, en tout genre, l'association féministe, elle en fait énormément. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, mais en fait, on a besoin de l'appui de la direction, quoi, pour certaines choses, notamment les sanctions.
Alors, on a déjà entendu plusieurs témoignages avant dans le journal. Lucille Besse, vous avez discuté avec Marie, c'est une ancienne étudiante de Sciences Po Grenoble.
Oui, et elle pointe du doigt les soirées organisées par le BDE, donc le Bureau des étudiants, et aussi les week-ends d'intégration où les bizutages sexistes commencent dès le trajet en bus.
Les filles, on les a poussées à se déshabiller. Mais voilà, le nombre de filles qui se retrouvaient en culotte, ils prennent les soutiens-gorge. En fait, tout le long, il y a un concours de Miss, alors il y a Miss Orgasme, Miss Why, donc Miss du week-end de l'intégration. Pour élire cette Miss Why, il fallait se dénuder, quoi. Il y a aussi toutes les soirées organisées par le BDE. Il y a une sorte de prédation. Oui, des agressions sexuelles, faut les nommer. Voilà, c'est un garçon qui m'a embrassée sans me demander mon avis. Il y a une autre soirée où c'était un gars, bon, il me suivait tout le temps. Il a fini par nous faire tomber avec mes amis. Juste avant une de ces soirées-là, du BDE, j'ai reçu un SMS anonyme qui me disait qu'à cette prochaine soirée, il me choperait.
Alors, les week-ends d'intégration ont été supprimés à Grenoble. Est-ce que malgré ça, à votre connaissance, il y a toujours ce genre de faits qui se produisent actuellement ?
Oui, alors du coup, je précise que le week-end d'intégration avait été supprimé pour d'autres raisons, donc c'est assez hypocrite de la direction de s'en vanter. Mais du coup, il y a encore énormément de soirées BDE qui existent, des soirées AS, des soirées faites par d'autres associations qui ne sont pas toujours très... très saine et safe, c'est le bon mot, bon j'aime pas l'anglais, mais voilà. Et il y a encore par exemple le CRIT. Mais toutes ces questions-là, toutes ces soirées-là, elles sont mises à l'épreuve par normalement des critères qui malheureusement ne sont pas appliqués. Typiquement, normalement, il doit y avoir des safe zones par exemple ou des mesures qui doivent être prises pour gérer ce cas de figure. Ça évolue, les associations font beaucoup d'efforts, mais encore une fois, il y en a qui en font moins, il y en a qui s'organisent en dehors des cadres, et du coup, quand c'est organisé en dehors des cadres, on ne peut quasiment plus rien faire.
Mais justement, ça m'interpelle parce que vous parlez de certaines associations qui font moins d'efforts. Il y a des BDE qui organisent des soirées étudiantes, des week-ends d'intégration où il se passe ce genre de problème. Il y a l'impression qu'il n'y a rien derrière, il y a une impunité, qu'est-ce qui se passe dans ces BDE ? Pourquoi il n'y a pas d'action entreprise contre eux ?
Alors déjà, il faut préciser que ce n'est plus le même BDE à Sciences Po Grenoble. Il a été aboli, puis il est revenu. Donc je pense que le témoignage est daté, parce qu'il n'y a plus le week-end d'intégration. Mais en tout cas, ce qui peut se passer, en tout cas dans une certaine omerta, c'est que finalement, il y a une défense assez corporatiste de Sciences Po Grenoble, des élèves et des étudiants et étudiantes envers justement leurs associations et les autres étudiants et étudiantes. Il y a un problème de libération de la parole qui ne s'est pas encore bien faite. Le problème ne vient pas de la libération de la parole, le problème vient de l'omerta, évidemment. Et le problème, c'est que ça ne remonte pas toujours, et même quand ça remonte, il n'y a pas grand-chose qui est fait, donc ça n'incite pas non plus à remonter. Et puis, c'est un peu comme partout, hein, les victimes, quand elles arrivent à parler déjà, c'est quasiment plus dur pour les victimes ce qui se passe que pour les présumés coupables, on va dire les coupables même. Parce qu'au final, elles se retrouvent accusées de mentir ou de choses diverses très horribles. Donc c'est aussi ça, c'est l'omerta finalement, mais ça ne vient pas forcément des associations même, quoi. Ça vient plus de l'esprit corpo extrêmement fort à Sciences Po Grenoble.
Alors normalement, c'est plutôt à la justice de sanctionner des violences sexuelles, peut-être pas forcément à l'école. Alors pourquoi ces victimes ne portent pas plainte ? C'est la question qu'on peut se poser.
Bon, ce serait pas vraiment à moi de répondre à cette question, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'en fait, les plaintes, il y en a 1% qui aboutissent. Et donc, il y a un découragement face à la justice, alors que très clairement, les établissements, ils ont une responsabilité, notamment parce qu'ils font vivre des personnes ensemble. Donc s'ils font vivre un agresseur avec sa victime, c'est juste impensable. Donc il faut que l'établissement prenne ses responsabilités. Et ce n'est pas que à la justice de le faire.
Mais est-ce que ça arrive souvent justement qu'il y ait des gens qui soient ensemble en cours alors que les faits sont connus ?
Normalement, justement, la direction peut séparer ces personnes de cours. Mais en fait, il y a des fois où ce n'est juste pas possible. Donc ça arrive et en fait, ça arrive beaucoup trop souvent. Oui, et c'est un calvaire pour les victimes.
On arrive à la fin de ce dossier. Merci Christelle et Lucille pour ce dossier. Merci à vous, Thomas Mandroux, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle, vous êtes président de l'Union syndicale de Sciences Po Grenoble. Vous dénoncez une emprise, une incompréhension, des mensonges de la part de la direction. Vous sentez écouté mais pas entendu. Et pour vous, il faut plus de formation, d'accompagnement des victimes et des sanctions plus lourdes pour les auteurs de ces actes. Radio Campus, il est 16h55.
Microcité, en direct jusqu'à 17h.
Le restaurant grenoblois Chez Marius a lancé hier l'opération Les Petits Gueuletons des étudiants. Des repas à emporter pour les étudiants au prix symbolique d'un euro. Du lundi au vendredi, ils peuvent toquer à la porte du bistrot et repartir avec un déjeuner tout chaud. Lou Momège s'est rendu sur place pour voir comment ça se passe.
Bonjour les étudiants.
En à peine 5 minutes, les 50 repas prévus par le restaurant étaient réservés en ligne. Caroline est étudiante en M1 ingénierie de la santé. Elle, qui n'a pas toujours le temps de cuisiner, faisait partie des premiers inscrits.
C'est vrai que le midi, c'est des trucs qui vont vite au micro-ondes, qu'on peut vite réchauffer ou des choses comme ça. Vu le prix et puis vu les plats qu'ils proposent, avec des viandes et des légumes qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger en tant qu'étudiant, je me suis dit, on va tenter, on va se faire un peu plaisir.
Ça sera juste ici pour le 1 euro symbolique de solidarité. On est étudiant hospitalier, donc on ne gagne pas des milliers des cents. La viande, on n'en mange pas souvent, par exemple.
Au menu du jour, veau maringot et tarte alsacienne, une aubaine pour Colline et Sébastien.
Soir, on allumera une bougie sur la table, comme si on était au restaurant. Et...
ça fera l'affaire. Ouais. C'est pas facile en ce moment, l'isolement. Le fait de plus voir les amis, de plus pouvoir aller en ville manger avec les copains, de plus aller au bar, même en cours.
Nous aussi, on est en difficulté.
Diego Di Caro est un des gérants de chez Marius. Avec son frère Jean et sa sœur Jacqueline, ils partagent la direction de plusieurs restaurants à Grenoble.
J'ai vu tous ces étudiants qui étaient vraiment en galère et ça m'a beaucoup touché. D'autant plus que nous avons des étudiants qu'on ne peut plus réembaucher.
Ça vous fait du bien du coup de faire ça, de faire cette initiative, reprendre un peu le boulot ?
Ah bah oui, tout à fait, 100%, mais 200%. Ça nous permet d'avoir des recontacts avec nos salariés déjà et donner de la chaleur à tout le monde. Ce ne sera que des repas de bistrot, hein. Français, repas de grand-mère, on va dire.
Et pour régaler les étudiants, on s'affaire en bas dans la cuisine. Fabien est le chef cuistot de chez Marius. D'habitude, ils sont une quinzaine à travailler.
Avec tout ce qui se passe, tout le monde est en chômage partiel. Et du coup, là, on a fait revenir les gens, mais on fait travailler un petit peu tout le monde, chacun son tour. On sera tout le temps 3-4 en cuisine. On travaille tous plus ou moins 2-3 jours par semaine. Bah, c'est bien, parce que ça permet de reprendre un petit peu d'activité, parce qu'on était quand même cloîtrés chez nous depuis le mois de novembre.
Une situation économique compliquée pour le restaurant. Alors pour mener cette initiative de repas à 1 euro, ils ont dû recourir au mécénat. Les industriels contactés ont sauté sur l'occasion.
Il faut se remettre en jambes.
De quoi réjouir Jacqueline, une des gérantes du restaurant.
On n'a pas les moyens de le faire, surtout en ce moment. En tout cas, on a de la main-d'œuvre qui est disponible pour le faire. Donc du coup, c'est l'occasion rêvée pour pouvoir faire quelque chose pour tous ces étudiants.
Le restaurant espère pouvoir bientôt proposer 80 repas quotidiens, et ce jusqu'en avril.
Merci Lou pour ce reportage gourmand croquant. On pense bien sûr à tous les étudiants pour qui la période n'est pas facile. Et tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Colline Mollard.
Après les révélations d'agressions sexuelles dans tous les IEP de France, une réunion a eu lieu cet après-midi entre la direction de Sciences Po Grenoble et les syndicats étudiants. Une rencontre pas du tout satisfaisante selon eux. En Isère, restriction de circulation à cause de la neige. Plusieurs routes sont interdites aux camions de plus de 7,5 tonnes jusqu'à demain. La situation sanitaire se dégrade en Moselle. Les élus locaux réclament un confinement local. En 4 jours, 300 cas de contamination aux variants brésiliens et sud-africains ont été détectés. En Birmanie, 8e journée de manifestation après un coup d'état militaire il y a 2 semaines. L'ONU réclame aujourd'hui des sanctions contre l'armée. La 36e cérémonie des victoires de la musique se déroulera ce soir. Parmi les artistes nommés dans les catégories principales, Benjamin Biolay, Gaël Faye ou encore Aya Nakamura.
Merci Colline pour cette piqûre de rappel. C'est déjà la fin de Microcité. Merci de nous avoir écoutés, amis auditeurs, amis auditrices. La semaine prochaine, pas d'émission, mais surtout, ne paniquez pas. On se retrouve dans 2 semaines pour la dernière émission de la saison. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, @Microcité. Tout simplement, vous pouvez aussi écouter ou réécouter nos anciennes émissions en podcast sur le site de Radio Campus. Merci à toute la rédaction, merci à Louis Oscovin à la technique. Je vous dis à dans 2 semaines, courage aux étudiants, bonne fin de journée à toutes et à tous.